Alors, deux mots sur moi-même. Je suis psychologue, statisticien et belge. Alors, je ne sais pas ce qui sera le plus compliqué pour vous, mais vous allez devoir vous adapter un petit peu à l'affaire. Alors, la question, ce n'est pas moi qui me la suis posée, et la réponse est oui. Maintenant, je vais essayer quand même d'argumenter un petit peu autour de cela. Et je ne pense pas qu'il y ait une vraie rupture entre ce qu'on a vu tout à l'heure avec Jean-Yves et ce que je vais vous raconter. Je pense que Jean-Yves se demandait ce qu'on apprenait quand on mettait en situation d'apprentissage les élèves. Est-ce qu'ils apprenaient vraiment? Et puis moi, je vais me demander plutôt ce qu'ils nous persuadent qu'ils savent quand on les met en situation d'évaluation. Et si finalement, on ne commet pas un certain nombre d'erreurs d'appréciation quand on les met dans ces situations-là. Voilà un peu le... Donc je pense qu'on voit bien les deux faces de la même pièce. Alors, je vais d'abord parler d'inégalité et donner un petit modèle de comment je raisonne par rapport à cela en termes d'évaluation. Puis, j'essaierai de mettre en évidence les inégalités qu'on produirait, qu'on surajouterait lors des évaluations. Et ensuite, je dirais, si j'ai le temps, quelques mots sur les référentiels, les programmes qui nous mettent dans des situations qui ne sont pas toujours très faciles et qui nous compliquent parfois la vie. Voilà un peu ce que je vais faire. Alors, si vous voulez m'interrompre, vous pouvez m'interrompre, il n'y a pas de problème. Du moins, vous ne m'interrompiez pas tous les 3 minutes pour parler pendant 10 minutes, il n'y a pas de souci. Alors, le modèle que moi j'ai utilisé de par ma formation, c'est de me dire, ben, finalement, les élèves dans la tête, on n'a pas accès directement à ce qu'ils savent, mais ils savent quelque chose à un moment donné. Et moi j'ai appelé ça le score vrai ou la vraie valeur. Aujourd'hui, on va plutôt parler de compétences. On va dire, les élèves, à un moment donné, ils sont compétents. C'est-à-dire, théoriquement, ils savent faire un certain nombre de choses. Ils seraient capables de faire toute une série de choses. Oui, et c'est à ça qu'on va essayer d'avoir accès. Malheureusement pour nous, on a accès qu'à ce qui est observé. C'est-à-dire, finalement, à une série de performances. Et tout notre problème d'enseignant, et je suis enseignant aussi à l'université, c'est d'essayer de voir dans une série de situations, finalement, de faire émerger ce qu'il y a dans la tête des élèves ou des étudiants en ce qui me concerne, et qu'ils sauraient réellement faire en essayant de me rapprocher le plus possible de ce qu'ils ont réellement comme compétence. C'est tout notre problème. Et évidemment, plus on s'élève dans la complexité, plus c'est difficile d'approcher ce qu'ils ont entre les oreilles, hein, sans pouvoir ouvrir la boîte crânienne. On est bien obligé de les mettre dans des situations. Alors c'est facile de savoir s'ils connaissent leur table de multiplication, ça c'est assez simple. Le modèle qu'ils ont entre les oreilles et ce qu'on peut observer, c'est assez facile. Mais quand on va commencer à essayer de monter en complexité, les choses deviennent d'autant plus compliquées pour nous. Et par ailleurs, elles supposeraient qu'on ait des échantillons de plus en plus nombreux. Quand on essaie de savoir si les élèves connaissent leur table de multiplication, j'ai gardé un domaine assez simple, on a besoin de quelques situations pour savoir s'ils connaissent la table par 4, la table par 7, etc. C'est assez facile à faire. Quand on est dans des situations très complexes, si on les met dans une situation très complexe et qu'ils se plantent, c'est pas nécessairement parce qu'ils sont pas compétents. C'est peut-être que la situation dans laquelle on les a mis est très éloignée ou comporte un certain nombre de biais ou de travers qui ne sont pas habituels et qui vont compliquer méchamment la vie de nos élèves. Et donc, ça va supposer qu'on multiplie à l'envi les échantillons pour être à peu près correct et avoir, à partir d'un certain nombre d'observations, de performances, qu'on puisse inférer finalement cette compétence. Et le problème, c'est que les situations complexes, elles prennent plus de temps à évaluer que les tables de multiplication. Et donc, on est dans un système qui est très consommateur en temps, ce qui fait que souvent, on propose des situations en nombre réduit, et c'est à partir de là qu'on va dire il est compétent ou il n'est pas compétent. Donc, l'approche par compétence, évidemment, ne nous simplifie pas du tout la vie, même si on peut très bien comprendre pourquoi on s'est lancé dans cette opération, de redonner du sens, de se dire finalement, on n'apprend pas pour l'école, on apprend pour après l'école ou en dehors de l'école. L'école, c'est un événement fortuit qui va durer un certain temps, c'est sûr, mais on n'apprend pas pour ce qu'on est à l'école. Et donc, la question qui va se poser à nous, hormis le nombre d'échantillons qu'il nous faudrait, c'est de se dire, mais finalement, est-ce que les biais qu'on pourrait introduire, ils sont aléatoires, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas liés à quelque chose d'identifiable, comme le sexe des élèves, ou leur appartenance ethnique, ou leur milieu social. Donc, est-ce qu'on est réellement dans des situations qui sont purement aléatoires? Un coup, ça marche pour cet élève-là, et puis, voilà, l'autre situation ne marcherait pas, mais c'est pas lié à des caractéristiques propres qu'on pourrait identifier. Ou est-ce qu'au contraire, c'est lié à des biais qu'on va appeler systématique, c'est-à-dire se dire, mais finalement, on met systématiquement les élèves, certains élèves, certains groupes d'élèves identifiables, dans des situations qui leur sont moins favorables qu'à d'autres élèves. Oui. Et donc, évidemment, ce faisant, là aussi, on va être un peu embêté, parce que ça veut dire qu'on va devoir nommer, en tout cas pour les chercheurs, on va devoir nommer des groupes. On va devoir fabriquer des ensembles d'élèves qui sont liés à ce que nous pensons, ce que la littérature nous dit, etc. Et ce faisant, le gros risque, évidemment, c'est de naturaliser ces groupes, c'est de dire, bah, finalement, alors les filles et les garçons, ma foi, c'est assez naturel de considérer qu'il y a des filles et des garçons, mais on va fabriquer des groupes sur nos ensembles d'élèves qui ne sont pas du tout, eux, naturels et qui ne reposent pas forcément sur des découpages avérés. Et donc, comme chercheur, on est toujours très embêté de finalement induire aussi auprès des gens qui nous entendent ou qui nous écoutent un découpage qui nous est bien pratique, parce qu'il faut pouvoir essayer de voir si on n'est pas en train de mettre en situation périlleuse certains ensembles d'élèves, mais ce faisant, on fabrique aussi nos groupes. Et ensuite, l'apprentissage, ce qui est drôlement compliqué pour nous, et c'est que c'est un modèle interactif. Il y a de l'élève, fois de l'enseignant, fois de la situation. Et donc, on est en train de travailler sur quelque chose qui est passablement complexe. Et donc, forcément, quand on apprend avec les... Et j'aurais dû mettre les autres élèves, fois l'élève, fois les enseignants, fois... et on pourrait multiplier à l'envi comme ça les choses. Et donc, finalement, l'éducation est un service très particulier où l'élève lui-même participe à son propre apprentissage dans un melting pot très, très complexe. Et donc, pour arriver à ressortir réellement ce que l'élève fait et ce que l'élève apprend vraiment, les choses ne sont pas simples, comme vous l'avez vu tout à l'heure, la situation d'évaluation, ce n'est pas plus simple. Alors, évidemment, face à des enseignants, c'est toujours gênant, je pense que Jean-Yves l'a bien dit, le chercheur, il cherche, il essaye de mettre en évidence un certain nombre de choses, et mon propos n'est pas du tout de dénigrer, même si vous allez voir qu'on n'est pas toujours sympathique, puisqu'on va mettre en évidence des différences, des choses qui ne sont pas très drôles à voir, mais c'est un peu notre boulot, et si ça peut vous rassurer, malheureusement, ce genre de choses marche aussi à l'université, donc nous-mêmes, comme chercheurs, on se fait prendre à notre propre piège aussi, quand on est regardé par d'autres collègues qui s'intéressent à la pédagogie universitaire. Heureusement, c'est encore un domaine assez peu développé pour nous. Mais voilà. Alors, si je regarde, et si on veut vraiment savoir les problèmes qu'on peut rencontrer, c'est facile, hein, il y a abondance de littérature dans le domaine de la docimologie. C'est une discipline ancienne qui date du début du XXe siècle et qui, bah, elle est surtout restée dans sa perspective critique, parce qu'à défaut de pouvoir monter une science positive qui dirait comment il faudrait évaluer. Donc on est un peu là-dedans. Donc le côté docimologique est souvent assez déplaisant pour les enseignants. Je vais vous montrer une situation ancienne qui est reprise par de Lancer, mais en fait c'est un... Bon, il y a des tas d'auteurs que je mentionne là. En fait, l'exemple vient de Weiss, qui a fait l'expérience suivante. Il avait simplement présenté deux rédactions dactylographiées à deux groupes d'instituteurs de quatrième année primaire, et ils étaient 46, nos braves instits, dans les deux groupes. Et puis, Weiss avait simplement dit deux choses. Il a dit, pour la première, le travail est l'œuvre d'un élève moyen qui aime lire des BD. Son père et sa mère sont employés. Le travail 2 a été fait par un enfant doué. Son père est rédacteur d'un quotidien connu à l'époque. Lire des BD, c'était presque les portes de l'enfer. Et donc, ça, c'est la première situation. Et puis, à l'autre groupe d'instit, il va dire exactement l'inverse par rapport aux copies. D'accord ? Il va inverser les choses. Et donc ça, c'est vraiment l'idée d'expérimentation qui est intéressante. C'est à partir de ce moment-là qu'on peut évidemment mettre en évidence un certain nombre de paramètres. Ce sont les mêmes copies qu'on donne aux deux groupes d'enseignants, mais on inverse simplement l'induction de c'est quoi l'élève. Pourquoi cette idée ? Bien parce que très souvent, quand on discute avec les enseignants, je ne sais pas vous, mais ils nous disent « Oui, mais on ne connaît rien de l'élève, c'est très difficile d'évaluer. » On dit ben, vous savez que le principe, par exemple, du baccalauréat, c'est justement... Nous, on n'en a pas en Belgique, mais le principe, c'est justement d'anonymiser les copies. Et à l'université, on va avoir ces petits coins qui vont être pliés, etc. C'est justement de rien connaître de l'élève pour ne pas être influencé par des connaissances. Ce que montrait le collègue à l'époque, c'était justement que de minimes inductions pouvaient modifier de façon importante les choses. Alors, c'est ce que résume ici de Lancer. Donc, il dit, ben, finalement... Pour les quatre aspects considérés, donc on va voir tout de suite après les quatre aspects, mais c'est le fond, la forme, etc., dans une rédaction, les notes attribuées au travail pour lequel on a créé un préjugé favorable ont été significativement supérieures aux autres. Pour l'orthographe, qui semblait le plus devoir échapper à l'effet œdipien de prédiction, c'est pour dire simplement que quand on vous dit quelque chose sur l'élève, vous pourriez très bien vous forger l'opinion qu'on essaye de vous faire acquérir, on observe qu'au travail de l'élève présenté comme doué, 16% des correcteurs accordent la note très bien et aucun la note insuffisant. Si le même élève est présenté comme moyen, le correcteur n'accorde aucun très bien, mais 11% de notes insuffisantes, donc ce qu'il fallait démontrer. Et les notes les plus favorables, c'est 1, la plus défavorable, c'est 5, et on voit que lorsqu'on essaie d'induire de façon positive hein, une image de cet élève, on voit que les notes même en orthographe se déportent vers le haut, alors que de l'autre côté, pour l'influence négative, les notes vont avoir tendance à se déporter vers le bas, y compris même, et c'est ce que souligne de Lancer, non seulement sur le style ou sur le fond, mais aussi sur l'orthographe, ce qui est quand même assez curieux, puisque, en principe, une faute, c'est une faute. D'accord ? Alors, je vous passe les détails. Avant d'expliquer ceci, en général, en classe, avec mes étudiants, en futurs enseignants, on fait une correction de dictée pour bien montrer qu'en effet, on corrige les dictées de façon très, très variée, d'un correcteur à l'autre, et que même quand on s'entend sur les critères, on a oublié un certain nombre de choses comme, oui, mais quand il y a deux fautes dans le même mot, est-ce qu'on va compter deux fois la faute, ou est-ce que c'est le même mot ? Et vous pouvez occuper une journée complète sur la correction de dictée, c'est bien amusant. Donc, voilà pourquoi on peut observer ce genre de choses. Mais c'est des données anciennes, et c'est en français. D'accord ? Alors pourriez-vous dire, est-ce que c'est vrai partout ? Et en mathématiques, est-ce que c'est vrai ? Alors là, j'ai un très joli texte de deux de mes collègues liégeois, Dominique Lafontaine et Christian Monsort, qui ont en fait fait quoi ? Ben, ils se sont dit, on va prendre les maths, parce que les maths, c'est plus rigoureux. Ce que nous disait la docimologie, c'est qu'en général, il y a une meilleure entente entre les correcteurs. Alors, il en faut quand même passablement beaucoup pour qu'on s'entende, mais c'est plus facile qu'une disserte de philo. Et on va s'intéresser aux maths pour cette raison-là. Nos collègues mathématiciens, d'ailleurs, nous rappellent toujours qu'ils corrigent de façon beaucoup plus systématique que dans les autres disciplines. Et en fait, on va utiliser 4 copies qui vont être jugées aussi par 48 enseignants, des hommes et des femmes. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est, je vous passe le plan détaillé, mais on va avoir 4 copies qui vont être très gradées. Donc, il s'agit en fait d'une démonstration qui est destinée aux élèves de 5e chez nous, c'est-à-dire l'avant-dernière année du secondaire, ils ont 16-17 ans, et il y a une copie qui est très faible, une copie assez faible, une copie qui est bonne, et une copie qui est très bonne. Vous voyez les notes sur 10 pour vous donner une idée. Ça, c'est le jugement a priori quand on regarde les copies. Et puis, ce qu'on va faire simplement, c'est qu'on va affecter ces copies à Bernard, à Nicolas ou à Chloé et Émilie. Et évidemment, les prénoms, et c'est la seule variable qui va jouer, les prénoms vont changer d'une copie à l'autre selon le groupe auquel on va donner les informations et les demandes de correction. Et alors, malheureusement, ce qui était attendu arrive, c'est-à-dire que les collègues, hommes et femmes d'ailleurs, vont avoir tendance, alors non pas toujours à mieux coter les garçons, c'est d'ailleurs pour cela que c'est assez difficile de trouver le problème dans ce type de situation. Non, ils vont pas toujours mieux coter les garçons. Les bonnes copies de garçons vont être mieux notées que les mêmes copies bonnes attribuées à des filles. Et donc, alors qu'à l'inverse, pour les mauvaises copies, les correcteurs, hommes et femmes, vont avoir tendance à être plus indulgents pour les mauvaises copies qui sont faites par les filles par rapport aux mauvaises copies qui sont faites par les garçons. Un peu comme si les garçons devaient être bons en maths, et donc quand ils sont bons, ils sont très bons. Hein, et puis si les filles sont bonnes aussi, ma foi, c'est peut-être pas si bien que ça, ou c'est peut-être par chance, etc. Alors que dans le bas du classement, comme c'est pas très admissible que les garçons soient aussi mauvais, ils vont sans doute se faire saquer un peu plus que les demoiselles. C'est une interprétation, mais je vous le fais dans les grandes lignes, c'est un peu ce qu'on va retrouver dans l'argumentaire. Alors, les enseignants sont pas méchants, parce que quand on leur demande ce qu'ils pensent des chances de filles et de garçons de réussir, et est-ce que les garçons et les filles sont aussi bons les uns que les autres en maths, ils disent « oui, bien sûr ». Ça, ils ont bien appris qu'il fallait dire ce genre de choses. Mais quand ils corrigent les copies, malheureusement, ils se font quand même avoir. Ils se font quand même avoir. Alors, c'est pas sympa de notre part de faire ce genre de choses, mais ça marche. Une deuxième partie de cet article très chouette que je peux vous passer, il est un peu technique, mais très chouette dans ses fondements, c'est une comparaison entre les notes obtenues auprès des enseignants et les notes obtenues à PISA en 2000. Et donc une comparaison entre les deux systèmes. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Eh bien, c'est intéressant parce que PISA a corrigé de façon anonyme. Alors, pour une part, les données ont été corrigées de façon automatique pour les questions en choix multiples quand il y en avait, et pour les questions ouvertes, il n'y a pas les prénoms, donc on corrige avec des numéros, et donc on ne savait pas ce qui se passait. Et ce qu'on va obtenir, c'est exactement la même chose entre les notes des enseignants et PISA, on va voir que les garçons qui sont plutôt bons vont plutôt recevoir une surévaluation, et les filles qui sont plutôt faibles vont être très surestimées par rapport aux garçons de même niveau, en tout cas si on considère l'évaluation de PISA. D'accord ? Donc on a une différenciation de cet ordre-là, et ça c'est quand même assez gênant, évidemment, comme vous en doutez. Alors, on peut faire des tas d'autres choses pour essayer de mettre en évidence ces distinctions. Et moi, cette fois-ci, je vais vous parler de travaux que j'ai fait avec mon collègue Christian Monceur, et qui vont essayer d'exploiter justement les données de PISA. PISA, on peut essayer de l'utiliser pour classer les pays et hausser sa fierté nationale ou en rabattre un petit peu. Mais on peut aussi utiliser les données pour essayer d'aller un peu plus loin. Et on s'est posé trois types de questions. Est-ce que la forme des questions, ouverte ou fermée, peut influer sur le taux de réussite des filles et des garçons? Hein, est-ce que ça change? Est-ce que la manière de définir le concept d'immigré, hein, peut influer sur les résultats des élèves nés ou non dans le pays où ils sont testés et instruits? Je vais vous expliquer un peu la nuance qu'on va faire là-dessus. Et troisièmement, est-ce que la définition de la population cible, une année d'études particulière, versus les élèves d'un âge donné, ça peut faire la différence d'un pays à l'autre? Est-ce que ça peut nous permettre de mieux comprendre comment nous fonctionnons, nous, et ce que veut dire le redoublement? Le redoublement, ce n'est pas une fatalité. En Belgique comme en France, on est assez champions. Moi, je pense qu'on est un peu plus champions que vous, mais je n'en tire aucune gloire. Ce n'est pas une fatalité, puisque dans d'autres pays, on ne fait pas comme ça. Hein? Alors, qu'est-ce qui se dit sur PISA? C'est pas juste, parce qu'on prend tous les élèves à 15 ans, où qu'ils soient. Et oui, mais... ça, c'est nous qui avons décidé qu'ils ne devaient pas tous être au même endroit à 15 ans. Parce que dans d'autres systèmes, à 15 ans, ils sont au même endroit, ils sont dans l'année attendue. Et si en plus ils sont bons, voire meilleurs que les nôtres, qui sont étalés sur différentes années, c'est que peut-être d'autres systèmes s'en sortent mieux pour amener une classe d'âge à un niveau donné, plutôt que de l'étaler selon sa propre volonté, en disant « il faut redoubler, c'est important, c'est une mesure pédagogique ». Et puis, quand on regarde les résultats, on n'y est pas nécessairement. Voilà un peu les trois questions qu'on s'est posées, qui relèvent bien des problèmes d'évaluation. Alors, les formes de réponse, est-ce que ça peut jouer sur la réussite des filles et des garçons, ou est-ce que les filles et les garçons réussissent différemment les questions en fonction de la forme? Alors, c'est une question qui est compliquée. Et très souvent, comme chercheur, on va vouloir raffiner les choses et on va se rendre compte que il y a déjà un problème. Je vais vous le montrer tout de suite. Les filles et les garçons ne sont pas au même endroit, au même âge. Dans les systèmes à redoublement, si on ne se met pas à protéger rapidement les garçons, on n'en aura sans doute bientôt plus qui arriveront à l'université. J'exagère un peu, mais on a l'inversion aujourd'hui chez nous des taux de scolarisation à l'université des filles et des garçons, sauf chez nos collègues ingénieurs, mais pour les autres facultés, c'est vrai de 90% à 60%. 90 dans ma section chez moi en psycho, 90% de filles, et pour d'autres sections, 60 ou un peu plus de 50%. Alors, ça veut donc dire, voilà, ça c'est au moment de faire PISA en 2000. Hein. J'ai pris celle-là parce qu'on a écrit dessus et qu'il y a un texte, si ça vous intéresse. Mais qu'est-ce qu'on remarque chez nous? Ce sont les années d'études, hein, première année d'études, deuxième année, donc première année de primaire, hein, CP, etc., jusqu'à la dernière année du secondaire. Nous avons 12 années primaire plus secondaire. Et en théorie, à 14 ans, les élèves devraient être dans la dixième année, que nous appelons quatrième, mais... voilà, c'est notre façon à nous de parler. Et donc, ce qu'on va remarquer, évidemment, c'est que les taux d'élèves filles et taux d'élèves garçons ne sont pas du tout pareils. Hein, donc, on a un peu moins de 50%. Donc, à l'heure, c'est un peu moins de la moitié de la classe d'âge, alors que chez les filles, c'est plus de 60%, 62 et quelques pourcents. D'accord ? Donc, quand on va s'intéresser aux résultats, évidemment, vous allez devoir garder en tête qu'on n'a pas la même proportion de filles dans chaque année d'études. Donc, notre situation n'est pas simple. Ensuite, les épreuves comme PISA ne sont pas des épreuves qui sont construites sur le curriculum belge francophone. On est bien peu de choses par rapport à l'ensemble du monde, et donc forcément on n'a pas fait l'épreuve en fonction de notre curriculum à nous, mais en fonction d'un curriculum qui a été fabriqué de toutes parts et qui n'est le curriculum de personne, même si les influences peuvent être plus ou moins grandes entre les différents pays qui vont participer à cela. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une bonne description de l'épreuve et on sait quels sont les processus supposés sous-jacents aux différentes questions. Et essentiellement, pour faire simple, là je parle de la lecture et non plus des mathématiques, on va avoir des processus liés aux tâches de lecture, des informations sur les contenus, le type de texte, et on va aussi avoir des contextes, c'est-à-dire le but qu'on va assigner au texte. Est-ce que c'est pour s'informer, est-ce que c'est pour agir, etc. Sachant qu'on est dans une évaluation. Voilà un peu le détail de ce que je vous raconte. Hein. Donc ça, ce sont les différentes façons d'organiser les choses. Et ça, c'est vraiment intéressant. On peut l'utiliser à cette fin, puisque les bases de données existent et qu'on peut exploiter l'ensemble des informations. Je ne vais pas rentrer forcément dans tous les détails, mais simplement dire que ici, on va remarquer qu'en fonction soit de l'échelle combinée, c'est-à-dire les résultats globaux, on va observer un certain nombre de points de différence entre les filles et les garçons, à l'avantage des filles, et ça vaut pour tous les pays, les filles lisent mieux que les garçons, en tout cas à travers ce type d'épreuve. 32 points, l'écart type est d'une centaine de points. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que pour les différents types de niveaux de compétences, eh bien, on ne va pas forcément avoir les mêmes écarts. Alors, ce n'est pas très glorieux à dire pour les garçons, mais bon, c'est comme ça. Ce qui est le plus basique, comme retrouver de l'information, eh bien, l'écart est le plus faible. Et dès qu'on va commencer à s'élever et réfléchir et évaluer, eh bien, là, les filles nous mettent une tatouille et on double l'écart. Et donc, c'est aussi intéressant de dire que quand il y a des écarts, ben, les écarts, ils ne sont pas uniformes. Et ce que Jean-Yves soulevait tout à l'heure, eh ben, c'est important de se dire, mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, si on joue le jeu de ne pas poser les mêmes questions, de ne pas mettre les gens dans les mêmes situations en fonction du niveau auquel ils sont, on peut en effet avoir l'apparence d'une égalité. Dans la classe, bah, tout le monde a réussi, on y est arrivé, on n'est pas arrivé à la même chose. Alors, ça ne veut pas dire non plus, je pourrais plaider comme garçon en disant « ne posons des questions simples ». Mais ce serait passer à côté de l'objectif qui est quand même de pouvoir faire des inférences. D'accord? Donc, tout ça, évidemment, doit être pris en compte. Et la différence va aussi se marquer. On a une version vraiment analytique ici. Les textes continus, eh bien, la différence se marque davantage que quand ce sont des textes qui sont dits non continus, ce sont des graphiques ou des situations relativement éclatées de lecture de lecture d'horaires et de choses comme ça, d'informations structurées, l'écart est plus faible. Donc, vous savez maintenant ce qu'il faut faire pour faire réussir un garçon aussi bien qu'une fille, poser des questions simples, retrouver de l'information dans des textes discontinus. Si vous faites autre chose, vous aventurez, vous créez de l'inégalité. Alors, un des problèmes qu'on va aussi retrouver sur les formes de questions, je vous dis, c'est pas facile ce à quoi on se livre ici, et je vous passe encore beaucoup de détails, parce que, par exemple, on a beaucoup entendu PISA, ce sont des questions à choix multiples, c'est pas vrai. Formellement, sur la lecture premier round, donc 2000, 60 questions à choix multiples pour 69 questions ouvertes. D'ouverture plus ou moins grande, mais questions ouvertes quand même. Mais ce qui est important ici, et ce qui complique la vie du chercheur, ça nos collègues n'avaient pas forcément pensé à ce coup-là, c'est que, en fonction de l'objectif que vous allez viser, la nature des questions ne va pas être la même. Donc vous n'avez pas trouvé autant de questions à choix multiples selon que vous êtes en train de retrouver de l'information ou que vous êtes en train de réfléchir et d'évaluer. Quand on va faire ce genre de choses qui est d'un niveau plus élevé en complexité, eh bien on va trouver davantage de questions ouvertes. D'accord ? Et donc, ça rend très difficile les comparaisons, mais on va quand même s'y risquer. Ça va ? Donc, il faut aussi garder ce genre de choses. Parce que techniquement, c'est très difficile de poser des questions à choix multiples sur de l'élaboration, de la réflexion, etc. Et si vous vouliez tester la rédaction, la capacité rédactionnelle, évidemment, il n'est pas question de faire des questions à choix multiples. Okay. Alors, ce que présente la figure ici, avec beaucoup de chiffres, c'est... Je vais décrire ça, vous n'avez pas de bons yeux, moi non plus, donc mon écran ne me permet pas de le voir. Donc, vous voyez au-dessus la Belgique, le Danemark, la France et la Nouvelle-Zélande, on va se concentrer là-dessus. Et puis, nous avons trois colonnes, questions à choix multiples, questions ouvertes, questions à choix multiples, questions ouvertes, questions à choix multiples, questions ouvertes. Et puis, vous avez retrouver des infos, interpréter, réfléchir ou évaluer. Et c'est intéressant, quand on essaie de faire ce genre de choses, de se rendre compte que vous avez des pays qui réussissent, je dirais relativement bien, à ne pas avoir de différence importante entre les filles et les garçons. Par exemple, le Danemark, au début, dans des questions à choix multiples où il faut retrouver de l'info, mais la progression est très très importante. Vous passez de 6 points de différence, filles-garçons, dans la situation la plus contrainte, la plus cadrée, à 46 points, c'est-à-dire un demi-écart type, pour les questions les moins cadrées, qui sont ouvertes, etc. Et si je prends l'exemple de mon propre pays, mais vous prenez la France, on est dans le même ordre d'idées, nous on va commencer avec un écart plus important dès le départ, et il va augmenter, mais il ne deviendra pas plus important, et dans lequel la France, il sera même moins important dans la situation complexe que pour le Danemark. Et donc, quand on présente des résultats, je dirais, très globaux, évidemment, on oublie ce genre de choses qui nous donnent des informations et qui sont importantes pour essayer de comprendre pourquoi, bon sang, dans notre système, certaines choses marchent plus ou moins bien et d'autres semblent moins bien marcher relativement. Ouais. Donc, chez nous, on est plutôt... avec un écart important, quelle que soit la situation, il devient plus important, comme tout le monde, quand c'est plus complexe, pour les garçons, alors que d'autres systèmes semblent avoir une pente très importante, des différences très importantes sur les styles de questions en termes de réussite par les filles ou les garçons. Donc ça doit poser des questions à nos collègues danois, par exemple, se dire, tiens, bon sang, pourquoi est-ce que les garçons s'en sortent avec des questions simples, très bien, et puis pour le reste, ça ne va pas du tout. D'accord ? Donc là, je crois que ça donne des messages à chaque pays, et c'est le but des études internationales, c'est de donner des informations au pays. C'est pas, enfin, moi, je ne pense pas que ce soit d'être premier. De toute façon, nous sommes rarement premiers, donc il faut se faire à l'idée. Il faut trouver un usage plus malin des questions des études internationales. Alors, ce tableau est un peu compliqué. C'est une décomposition de la variance. Qu'est-ce que c'est que cette idée ? Bien, en fait, dans aucun pays, tous les élèves n'ont la même note aux épreuves PISA. Il y a des différences. Les différences peuvent être plus ou moins importantes entre les plus faibles et les plus forts. Et puis, on peut se dire, tiens, bon sang, quand on a tous les résultats de tous les pays, de tous les élèves de tous les pays qui ont joué à cela, à quoi est-ce qu'on peut imputer les différences ? Et la tendance, c'est toujours dire, il y a des pays plus forts et des pays moins forts. Et c'est vrai que c'est une part de la variance. Je vais rester sur la première colonne. Bien sûr, c'est une part importante. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire que ce qui fait la différence de résultats entre les élèves, pour une part, c'est le fait d'être en Belgique, en France, au Venezuela, si vous voulez, au Mexique, en tout cas, au Venezuela, je ne crois pas qu'ils aient participé. Mais la nature des questions, le type de tâches et des situations, alors là, ça devient très compliqué, parce que ça veut dire que c'est l'interaction entre une situation, par exemple, le pays, et la nature des questions. Ça veut donc dire que ce que je vous ai montré tout à l'heure, c'est exactement cela. Dans certains pays, on va trouver, pour certains types de questions, des différences très faibles et puis des différences très élevées pour d'autres types, alors que dans d'autres pays, au contraire, on va avoir quelque chose qui est relativement uniforme. Et bien ça, c'est à travers cette notion d'interaction qu'on va le voir. Et donc, le modèle est complexe. Et donc, il faut rentrer dedans. Et ça c'est un des problèmes que nous avons. C'est d'essayer de faire passer cette information. Comment est-ce qu'on peut faire passer cela quand, chez nous en tout cas, nos enseignants n'ont pas forcément de cours de statistique, hein? Et donc, comme consommateur, c'est aussi important. Et ça, c'est notre boulot aussi comme chercheur. Mais on ne peut pas aller dans chaque classe et expliquer chaque étude. C'est comment est-ce qu'on peut s'approprier ce genre de choses en disant, voilà, avec les 2-3 tableaux que je vous présente là, ça nous pose des questions ou ça ne nous pose pas de questions. Ou le problème, c'est ça. Et voilà comment on pourrait éventuellement y répondre, sachant que la réponse, ce n'est pas nous qui allons la fournir, c'est l'enseignant tous les jours qui va devoir s'en saisir et dire « Ok, moi ça change quoi dans ma pratique à moi ? Je dois faire quoi avec ce bazar ?» Ils sont bien gentils les chercheurs, mais moi je fais quoi ? Je ne fais plus de questions ouvertes, ou au contraire j'en fais plus, ouais, ou je différencie et les garçons en mangeront plus que les filles, ou bien je vais devoir, pas simplement donner plus, mais faire en sorte qu'ils se les approprient, qu'ils comprennent mieux la notion d'inférence. Et finalement, quand est-ce qu'ils font de l'afférence chez moi ? Est-ce que je fais ça ? Ou est-ce que jamais je ne le fais ? Mes questions sont des textes à trous. Vous savez, les textes à trous, hein, il faut boucher les lacunes. Ça, ce n'est pas vraiment d'un très haut niveau de compétence ou d'inférence, pas nécessairement. D'accord ? Donc, vous voyez le genre de choses qu'on peut retirer de ces études. Alors, la deuxième idée, c'est quoi un immigré ? Alors, PISA a une réponse à ça. Il y a des élèves qui sont nés dans le pays, il y a des élèves dont le père n'est pas né ou est né dans le pays, et il y a des élèves dont la mère est née ou n'est pas née dans le pays. Et avec ces trois variables-là, on va pouvoir composer des autochtones, oui, c'est-à-dire ceux dont les élèves nés dans le pays, de parents nés dans le pays, et puis on va décliner d'autres situations. Les élèves de première génération, c'est ceux qui sont nés dans le pays, mais dont les parents sont nés à l'étranger, et puis il y a les élèves allochtones, ceux-là ne sont pas nés dans le pays, hein, et les parents ne sont pas nés non plus dans le pays. Okay. Ces trois catégories. Alors pourquoi pas la nationalité, par exemple, etc. Tout simplement parce que, de commun accord, on ne pouvait pas enregistrer la nationalité. Dans certains pays, ça ne se fait pas. Comme chez nous, par exemple, les préférences religieuses, ça ne se fait pas. Et dans d'autres pays, ça va se faire. Donc il faut se mettre d'accord. Et le seul accord qui a pu fonctionner, c'était celui-là. C'était de se dire, les parents et les enfants sont nés ou pas dans le pays. Et donc, évidemment, ça définit d'une certaine manière les choses. Hein? Et on sait très bien que c'est pas tout à fait pareil. Quelqu'un qui est né dans un pays plutôt qu'un autre, hein, c'est pas pareil d'être français, de parents français, mais né à l'étranger, ce qui est tout à fait possible, etc. Bon, on a évidemment toute une partie d'informations qui va être gommée, mais néanmoins, ça peut nous donner des informations intéressantes si on garde bien à l'esprit comment on a créé nos variables, qui sont celles-là et pas d'autres. Ok. Alors ça n'empêche pas les pays éventuellement de collecter d'autres informations, mais au niveau international, c'est celles-là qui sont prises. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire ici ? Eh bien, si vous vous souvenez de mes élèves autochtones, donc nés dans le pays, de parents nés dans le pays, et puis tous les autres, okay ? Toutes les autres situations. On va voir qu'il y a des écarts qui sont plus ou moins importants d'un système éducatif à l'autre. Alors vous voyez qu'on ne s'en sort pas glorieusement en Belgique, puisqu'on a 102 points d'écart, et que dans ce que je vous présente, c'est le plus élevé. Et puis il y a d'autres pays qui s'en sortent mieux, comme le Canada, ouais, où ils sont à 11,1 points, donc les écarts sont assez faibles. Mais on pourrait aller plus loin dans l'analyse et se dire, OK, qu'est-ce que ça donne ? Souvent, on nous dit, oui, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'étrangers en Belgique. Hein, il y a beaucoup d'étrangers en Belgique, il y en a 10% à peu près hein, en Belgique. Et puis, alors, ça la fout mal parce qu'au Canada, il y en a deux fois plus. Donc, si les étudiants d'origine étrangère réussissent moins bien, certes, mais pas si catastrophiquement qu'en Belgique, c'est pas le fait qu'il y ait beaucoup d'étrangers en Belgique proportionnellement. Okay. Donc il va falloir chercher une autre piste, et vous pourriez vous poser certainement des tas d'autres questions. Je vois qu'il y a des froncements de sourcils. Hein. Pardon ?
Les 0,91 pour l'Italie qui m'interrompent, c'est totalement secondaire.
Oui, c'est tout à fait marginal, mais c'était pas en 2000 un pays d'immigration. C'est un pays d'émigration essentiellement, et c'est ce que déclarent les élèves. Alors, pardon. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar qui est un peu difficile à lire, mais vous allez voir sur quoi il s'agit. En fait, vous avez quatre colonnes. Vous avez toujours nos élèves autochtones, ces deux colonnes-ci, les élèves autres, ici. D'accord ? Et puis, vous avez les chiffres 500 et quelque chose, chaque fois, qui sont les scores obtenus par les élèves autochtones qui parlent à la maison la même langue que la langue d'enseignement, versus les élèves autochtones qui parlent une autre langue que la langue d'enseignement. Donc vous pouvez être dans le pays, avec des parents qui sont nés dans le pays, mais c'est pas, vous ne parlez pas la langue d'enseignement. Et puis vous avez les autres élèves, donc ceux qui ne sont pas nés dans le pays, parents nés dans le pays, qui parlent la même langue à la maison que la langue d'enseignement, et ceux qui parlent une autre langue que la langue d'enseignement. Et ce qui est intéressant, en rouge, c'est la note la plus faible, donc ça indique le groupe qui est le plus faible des quatre, alors qu'en bleu, c'est le groupe le plus fort. Okay. Et ce qui est intéressant, à mon sens, c'est de voir que si je prends la Belgique, ou si je prends par exemple la Belgique, on va se rendre compte que il vaut mieux finalement être un élève autochtone, hein, certes, et les élèves autochtones qui parlent une autre langue ne sont pas tellement handicapés. Alors c'est un cas très particulier, parce qu'en Belgique, vous savez qu'on a plusieurs langues. Oui. Et que donc on va avoir des élèves qui vont être belges, mais flamands ou francophones, et selon. Et très souvent, on a à Bruxelles, par exemple, des élèves qui sont des francophones, donc qui disent parler à la maison le français, mais de bonne famille, et qui vont être scolarisés dans une école néerlandophone, par exemple. Et donc ceux-là ne vont pas du tout avoir de problème par rapport à la langue d'enseignement, c'est un milieu choisi, en quelque sorte. Si je regarde des situations plus proches de vous, si je regarde la France, c'est assez logique. Hein, le modèle, c'est on est autochtone, on parle la langue française à la maison et c'est ce qu'on enseigne à l'école, c'est ce qu'on fait de mieux. Et puis, il y a les autres élèves qui ne sont pas les autochtones et qui parlent une autre langue. Et ceux-là sont dans la moins bonne configuration par rapport au test. Mais ce qui est plus surprenant sans doute, c'est un certain nombre de pays comme la Nouvelle-Zélande, les États-Unis, le Canada, où là, on a une inversion. Et on se rend compte que finalement, ouais, être un élève non autochtone, mais qui parle l'anglais, par exemple, ou le français, si on est au Québec, eh bien, c'est finalement une très bonne configuration. Pourquoi ? Parce que la structure d'immigration est très différente de la nôtre. C'est une immigration économique, d'autres vont dire choisie, hein, et donc, finalement, on a filtré à l'entrée. Et donc, les gens qui vont se retrouver dans le statut de autres et qui ont des enfants sont dans une situation qui, finalement, peut être plus favorable que la situation des autochtones. La moins bonne situation étant celle, dans cette configuration, des autochtones qui ne parlent pas la langue d'enseignement. D'accord ? Donc c'est des gens qui sont là depuis longtemps et qui ne parlent toujours pas la langue à la maison. Donc on voit que cette idée et que le découpage qu'on a, ça nous amène à être un peu plus prudents, c'est ça le message central de mon propos, avec ce découpage en fonction de étrangers, hein, autochtones, allochtones, etc. Ça dépend très très fort de la façon dont on conçoit l'immigration, ce que c'est, ce que ça recouvre, quelle est la langue parlée à la maison, et donc prudence par rapport à ce type de conclusion. Ils vont parfois mieux être ne pas être autochtones. Alors, un des problèmes qu'on a avec la définition, je vous l'ai déjà dit, la définition le fait qu'on s'intéresse à un groupe d'âge et non pas à une année d'études, ça c'est le propos de PISA, on prend les élèves de 15 ans, c'est qu'évidemment ils vont se trouver à des endroits très très différents. Et ça va notamment compliquer la vie, et je vais vous présenter une situation entre la Belgique et la France, ça nous avait fort énervé, pas la France, mais des collègues, qui nous avaient dit « Oui, mais vous savez, la carte scolaire, ça marche pas en France, d'ailleurs. » On a dit « Ok, mais je sais pas sur quoi tu dis. » Ben si, PISA le montre. Puis bon, on va voir. Et on va essayer de voir comment ça pourrait se placer. En fait, si je regarde comment ça marche en France et en Belgique, ça c'est la France. Ah, donc vous êtes au secondaire, vous avez la 7e, la 8e année, etc. Donc c'est votre 5e, 4e, 3e, etc. Et en théorie, on a testé les élèves qui devraient être en seconde. Oui. En Belgique, on n'a pas du tout la structure collège-lycée que vous avez. Nous, on a une structure unique secondaire. Okay. Et quand on essaye de voir, finalement, est-ce qu'il y a des différences entre établissements? Est-ce qu'il y a des établissements qui vont scolariser préférentiellement des élèves qui ont bons résultats académiques? Et d'autres qui vont scolariser préférentiellement, ça ne veut pas dire qu'ils le font exprès, que c'est méchant, etc. Mais ils vont, dans les faits, scolariser davantage d'élèves favorisés. Eh bien, dans notre structure unique, en fait, on va avoir un effet qu'on ne peut pas dégager, qui est lié à la fois au choix de l'école, mais aussi à l'année d'études et au retard scolaire. Et donc, c'est assez difficile de dépatouiller les choses. Chez vous, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, si on est à l'heure, on est au lycée. Et si on est en retard, on est au collège. Et donc, en fait, vous allez avoir très clairement, si on regarde les établissements scolaires, si je calcule les scores des élèves de lycée, ce sont des élèves à l'heure versus au collège, des élèves qui sont en retard. Et donc, c'est assez compliqué de le faire, à tel point qu'en France, ces données, on ne voulait pas les publier. Donc, mais comme nous, on est belges et qu'on peut se permettre beaucoup de choses, on a recalculé un certain nombre de choses. En faisant quoi? Ben, en faisant la chose suivante. C'est en fabriquant, donc ça c'est les élèves en retard. En fait, votre situation c'est celle-là. Vous avez des établissements où il y a des élèves et ils sont à l'heure ou en avance. Ce sont des lycées. Il y a des lycées où il n'y a pas d'élèves à l'heure, donc ceux-là, on ne peut pas calculer quoi que ce soit. On ne les a pas échantillonnés. Puis vous avez des collèges dans lesquels il y a des élèves en retard plus ou moins nombreux. Et puis il y a des collèges où il n'y a pas d'élèves en retard ou quasiment pas d'élèves en retard et qui n'ont pas été dans l'échantillon. Donc on a une configuration complexe pendant que nous, on a des établissements, 1, 2, 3, dans lesquels se trouvent des élèves qui, dans certains établissements haut de gamme, vont tous être à l'heure et dans d'autres vont être ici au milieu et dans d'autres encore vont se retrouver encore jusque-là. D'accord ? Mais quand je regarde ce que ça donne, en termes de part de variance expliquée par l'établissement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour 100% de différence entre les élèves, on peut attribuer la moitié à l'appartenance à une école en particulier. D'accord ? Pas 100%, 50%, 20%, 10%. En France, le chiffre est de 50%. Et c'est sur cette base-là que nos vilains collègues belges avaient dit, vous voyez, ça ne marche pas. Ça ne marche pas puisqu'il y a quand même 50% qui est attribuable aux écoles. Oui, mais il ne faut pas oublier le montage que je viens de vous décrire. Si nous, on regarde, vous avez dû regarder, en Belgique, c'est 57%. Donc, c'est pareil, quoi. On va dire que c'est pareil. OK. Bien sûr, mais si maintenant nous faisons quelque chose, nous transformons la Belgique pour un instant seulement, rassurez-vous, en un modèle français, et que je fabrique des pseudo-collèges et des pseudo-lycées en Belgique, c'est quoi ? Ben, je décide de faire une césure ici, et je décide de regarder les élèves là versus les élèves là versus ceux-là, et tout cela, au lieu d'avoir 3 établissements, ça fait 6 établissements. Alors, c'est pas très pur d'un point de vue statistique, parce qu'il y a une dépendance dans mon découpage, mais n'empêche que ce que j'ai observé, c'est si nous étions français un moment, nous montrions à 64%. Alors là, ça fait quand même réfléchir un peu plus, puisque là, on s'est mis dans des conditions qui sont comparables. Le redoublement est maintenant scindé en fonction des structures, exactement dans un modèle à la française. Et donc, on voit que notre situation s'aggrave, évidemment, parce que nous, on était bien convaincus, mais il fallait le démontrer à nos collègues, et donc on était assez contents de le faire. Voilà. Donc, ce genre de choses aussi, c'est important d'avoir des modèles alternatifs, des modèles voisins, en se disant, mais si on marchait comme ça, qu'est-ce que ça voudrait dire? Ben, la situation ne serait pas meilleure. Hein. Au contraire. Alors, ça ne répond pas à est-ce que la carte scolaire fonctionne ou pas. Mais il était très aventureux de dire, la France, c'est comme la Belgique, d'un point de vue ségrégation entre établissements. Nous sommes, notre système est plus ségrégué que le système français. Encore une fois, c'est comme le retard scolaire, je n'en tire aucune fierté. Hein. Mais c'est malheureusement comme cela. Or, notre situation... En théorie, elle pourrait être très favorable, puisque nous avons une forte densité de population et que les transports en commun sont plutôt bons, donc on peut aller dans n'importe quelle école et que chez nous, on a la liberté de choix. Donc si le libéralisme fonctionnait, on serait dans un système idéal où les élèves se répartiraient ou iraient tout près de chez eux. Ça ne marche malheureusement pas comme ça. Donc surveillez votre système. Si vous devenez plus belge, vous pouvez vous attendre à un certain nombre de phénomènes. Je n'ai rien dit. Hein ? Voilà donc le genre de choses. Alors c'est très différent par rapport aux études antérieures. On avait d'autres informations, mais là on prenait une classe par niveau. Donc en fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait aussi bien dans le modèle français que dans le modèle belge, une classe par établissement, ou deux classes par établissement, comme ça a été le cas dans Teams, à un endroit donné. Et donc finalement, les élèves en cas ne sont pas là. Ils sont là, mais c'est les élèves qui devraient être là. D'accord ? Et donc on a des structures, des choses assez différentes. Donc encore une fois, l'évaluation, si on veut comprendre comment ça marche, et comment ça marche d'un système à l'autre, et en tirer la richesse, il faut bien regarder ce qu'on est en train de comparer. Sinon on va avoir des déconvenus, on va dire beaucoup de bêtises. Oui. Et il faut ensuite être assez attentif à la décomposition de la variance entre école et classe. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous pouvez attribuer les différences de résultats au fait que votre fiston est dans une école et pas dans une autre. Okay, on peut imputer ça à l'école. Mais vous pourriez aussi faire un raisonnement sur la classe. Être dans telle classe plutôt que dans telle autre dans cet établissement-là, c'est pas pareil. Et puis, être dans cet établissement-là, c'est pas pareil que d'être dans l'autre où il y aurait des classes différentes. Et quand on fait cela, pour faire ça, évidemment, il nous faut d'autres données. PISA ne nous permet pas de faire ce genre de choses. Mais des données plus anciennes permettent de, par exemple, faire ce genre de choses. Là, j'ai repris les États-Unis et la France, où on voit que la structure de décomposition est très différente. On a, aux États-Unis, une différence entre établissements à ce moment-là, donc dans SIMS, qui était la seconde étude en mathématiques. On a une différence entre établissements qui va être relativement plus faible, mais du même ordre qu'en France, on va dire, mais la décomposition entre les élèves et entre les classes va être très différente. Ce qui veut dire qu'aux États-Unis, on va avoir des classes de niveau. Et c'est très clair quand on le voit ici, puisque presque la moitié des différences va être imputée à la différence de niveau, l'autre moitié, en quelque sorte, entre élèves. En France, on va avoir une différence qui va être relativement plus modeste entre classes. C'était la volonté d'avoir un système de collège unique et de supprimer autant que faire se peut, et puis après on en a rajouté, mais autant que faire se peut les différences entre classes. Et de ce point de vue-là, c'est pas si mal que ça. Hein, par rapport à un système à classe de niveau qui l'affirme, ben on a quelque chose qui finalement va réduire ces différences. Maintenant, on est toujours par rapport à 100% de variance, hein, donc c'est normal, la différence va se marquer entre les élèves à l'intérieur des classes. Mais donc c'est aussi important de regarder la façon dont on peut imputer, en quelque sorte, les différences.
C'est quelle année, SIMS ?
SIMS, je ne vais pas dire de bêtises. Comme Teams, c'est 95, la version que j'ai là, c'est au début des années 80. Ça, moi, je n'ai pas de données pour tracer. Hein. Donc, ce que je voulais vous montrer, c'était, attention, quand on décompose les choses, il y a des différences. Par exemple, on peut dire, OK, on va s'arranger pour que les écoles se ressemblent, on va sectoriser très bien. Mais si la pratique locale est de dire « oui, mais c'est rien, les enfants... » Et pour vous donner un exemple, chez nous, on n'a pas de sectorisation. On avait une école très sympa, secondaire, comme ça, sur la hauteur de la ville, très, très chouette. Et puis, c'est une école bon niveau. Qu'est-ce qu'ils faisaient à l'interne ? Ils disaient « ben nous, on fait gaffe parce que les enfants, ils arrivent dans une grosse école ici où il y a 15 classes de première année, secondaire. Et donc, en fait, on respecte leurs écoles d'origine. » Ah, voilà une super idée. Et on avait les écoles étalées sur la colline avec le bas... Le quartier populaire, dont venaient peu d'élèves, et puis il y en avait de plus en plus, et on gardait les classes. Et donc, en fait, si vous voulez, cette école, elle avait l'air d'avoir une grande mixité ou d'avoir des résultats très hétérogènes, mais en fait, quand on regardait, ils étaient très groupés dans les classes. Et alors, ce qui était le pompon de l'histoire, c'est que les enfants donc, qui venaient de l'école communale du bas, où ils étaient les moins nombreux à oser monter la colline, eh bien, qu'est-ce qu'on faisait ? On avait des doublons. On les mettait dans cette classe-là pour la compléter. Donc vous aviez à la fois les élèves d'origine les plus modestes, avec les scores les plus faibles au départ, qui se retrouvaient en plus chargés de scolariser, l'enseignant chargé de scolariser aussi les élèves qui étaient en redoublement. Donc vous voyez, une bonne idée, une idée sympa. A priori, il faut essayer de garder les enfants dans un environnement sécurisé. Eh bien, peut être aussi une horreur quand on va regarder, je dirais un peu méchamment comme un chercheur, un peu comme des insectes, on va regarder le système, on se dit, mais est-ce que vous avez pensé à ça ? Ah non. Oui, donc, mais c'est facile à dire, hein, c'est beaucoup plus facile sur des tableaux de chiffres que quand on est des élèves devant soi. Mais donc ce genre de choses, c'est aussi des questions qu'on doit se poser, sinon on risque de créer des horreurs pédagogiques dont étaient conscients les enseignants. On a fait ça aussi, ce genre de choses, en faisant passer des tests standardisés en maths et en regardant les notes des enseignants. Alors les enseignants, ils disent bien quel est le niveau de leur classe. Ah, cette année j'ai une mauvaise classe, cette année j'ai une bonne classe, cette année j'ai une classe moyenne. Mais la moyenne à leur note en mathématiques est de 70%. Chez nous, il y a un standard. Une classe primaire, c'est 70% de moyenne, 70-75%. Par contre, au test standardisé, alors je peux vous dire que ça allait de 85% de moyenne à 40% de moyenne. D'accord ? Et donc, cette gradation, les enseignants la perçoivent bien qualitativement. Ils disent, cette année, j'ai une classe très faible ou j'ai une classe très forte. Mais leur moyenne à eux reste extrêmement stable. Et comme on a du redoublement, ça veut dire que malheur à vous si vous êtes un peu moyen dans une classe très forte parce que vous êtes le dernier canard. Mais le même gars, dans une autre école, eh bien, il va s'en sortir mieux. Ce qui fait que maintenant, j'ai un peu changé mon argumentaire face aux parents. Je dis, vous savez, le pire, c'est finalement d'être un gosse de bonne famille qui n'est pas très fort. Parce qu'on va lui imputer l'échec. C'est-à-dire, comment c'est possible? Tous les autres réussissent bien. D'ailleurs, à la maison, il a tout ce qu'il faut, on lui donne du soutien, etc. Et puis, il se pète la figure. Mais il est dans un système où c'est un concours relatif. Et donc, si vous êtes le dernier parmi les autres, vous vous faites épingler. Et donc, il faudrait stratégiquement ne pas vous mettre dans une école trop forte. Et c'est ce qui arrive, par exemple. J'ai un copain qui est inspecteur en Flandre. Eh bien, c'est ce qu'il a fait. 3 enfants, les 2 premiers dans très bonne école de la région de Louvain. Et puis le dernier, on l'a mis dans une école un peu plus faible, parce qu'on savait qu'il ferait l'enseignement général à travers une école un peu plus faible. Et c'est le même diplôme sur papier. Oui. Donc tout ça, évidemment, est très important. Il y a ceux qui vont pouvoir en jouer, et puis il y a ceux qui ne connaissent pas ce genre de choses et qui vont se rétamer. Or, nos écoles les plus sélectives, c'est celles qui vont laisser à peu près, sur les 2 premières années, la moitié de leurs effectifs sur le carreau. Et cette moitié d'effectifs va partir dans d'autres écoles, vers le technique, vers le professionnel. Oui. Et c'est finalement là qu'on va générer ce genre de choses. Et c'est très dur pour les élèves de bonne famille qui avaient plutôt bien réussi à l'école primaire, mais qui ne sont pas tout à fait dans les clous par rapport à une école où on va serrer les boulons et on va avancer avec ceux qui avancent. Tout ça parce qu'on a aussi des évaluations qui sont locales chez nous. À part la fin du primaire où c'est une évaluation la même pour tout le monde, le certificat d'études de base, tout le reste est laissé à l'appréciation locale. Et donc nous recevons à l'université aussi des gens qui ont leur diplôme d'enseignement secondaire, mais à des niveaux extrêmement variés. Alors, ça me permet de dire 2 mots sur les référentiels qui pourraient créer aussi ou induire aussi des inégalités. Nous, on a travaillé dans mon service sur l'enseignement des sciences. C'est un sujet qui nous intéresse beaucoup. Et dans un seul réseau d'enseignement, je vous passe tous les détails, mais on va dire l'enseignement de l'État, de la communauté française aujourd'hui, organise son propre enseignement. Les municipalités peuvent le faire, l'enseignement catholique le fait aussi, et on a même des écoles non confessionnelles du type de Crolly, Freinet, etc., qui le font sur base non pas philosophique, mais philosophique confessionnelle, mais sur base philosophique pédagogique. Mais moi, je vous parle seulement du réseau d'enseignement, et je vous parle de la communauté française, donc de l'État, et je vais seulement vous parler de l'analyse du curriculum prescrit. Ce serait très chouette aussi de vous parler de ce qu'on a fait en classe. Je ne vais pas le faire. Et ce serait aussi très chouette de parler de ce que les élèves apprennent. Je ne vais pas le faire non plus, d'accord ? Donc je vais me concentrer sur ce qu'on dit dans les papiers, okay ? Ce qu'on oublie souvent. Hein ? Le but du jeu de la recherche dans son ensemble, c'était d'identifier les discordances et de voir comment on pouvait améliorer les choses. Et nous, on pensait, la fleur au fusil, faire ça en 1 an sur le prescrit, 1 an sur la plantée, 1 an, on est toujours depuis 3 ans sur le prescrit. D'accord ? Comme ça, vous voyez, planification de la recherche. Et le commanditaire ne s'en plaint pas. Alors, on a un cadre qui s'appelle le décret mission, qui date de 1997, et qui décrit notre façon de faire, et qui dit qu'on va travailler en compétences, et qui dit qu'on va avoir des socles de compétences, hein, vos compétences socles, mais nous on parle à l'envers, enfin on était les premiers, c'est peut-être vous qui parlez à l'envers, mais les socles de compétences qui décrivent à 8 ans, à 12 ans et à 14 ans ce que les élèves doivent savoir faire en termes de compétences. Et puis enfin, de secondaire, puisque chez nous l'enseignement est obligatoire jusqu'à 18 ans, au moins à temps partiel, il y a des référentiels terminaux. Ce dont je vais parler, c'est entre les socles de compétences 14 ans et les référentiels terminaux 18 ans. D'accord ? C'est à ça qu'on s'est intéressé. Alors, il y a plusieurs réseaux, je l'ai dit, il y a plusieurs filières et plusieurs formes d'enseignement, du technique, du professionnel, de la transition, de la qualification, de l'artistique. Et dans tout ce petit monde, il y a 13 ou 14 programmes, rien que pour le réseau public, pour les 4 dernières années du secondaire, pour physique, chimie, bio. D'accord ? Alors, ça c'est le schéma, si vous voulez comprendre la Belgique en résumé, hein, l'enseignement officiel, l'enseignement libre, et dans l'enseignement officiel, le réseau de la communauté française, je ne parle que de ça, les provinces et les communes, et puis à côté de ça, le libre confessionnel et le libre non confessionnel. Et dans le libre confessionnel, le catholique, le protestant, vous pouvez multiplier. D'accord ? Et tout cela donc nous fait des programmes qui sont propres à chacun, puisque chacun fait ses programmes. D'accord ? Donc on peut faire de l'éducation comparée chez nous très facilement, il ne faut pas bouger beaucoup. Dans la même commune, vous faites de l'éducation comparée. Alors, il y a un premier degré jusqu'à 14 ans, et puis après, ça se corse, transition, qualification, générale, technique, professionnelle, je vous passe l'artistique. Tout ça pour vous dire que ces différentes filières vont avoir des options sciences, sciences générales, sciences de base, éducation scientifique et sciences, pour le technique et le professionnel, qui sont des options différentes, qui vont dans leur propre programme, mais... Les référentiels généraux, eux, ils sont au nombre de 3. Donc, 1, 2, 3, 4, 5 options, ouais, mais seulement 3 référentiels généraux. Vous voyez déjà l'affaire pour faire correspondre tout cela. Et ça, c'est purement descriptif jusqu'ici. Les programmes, ça ressemble un peu à ça. Troisième année, quatrième année, cinquième et sixième année. Vous avez un programme de physique en troisième, vous avez, qui est le même pour ces deux ensembles-là. Ils n'ont pas les mêmes heures de cours. Vous avez ici un programme de bio et un programme de chimie. Oui, et puis vous avez un programme de physique qui est différent en troisième et en quatrième, et un programme qui est commun pour la troisième et la quatrième, puisqu'on incite les enseignants à travailler par cycle. D'accord ? Vous voyez que si je suis dans le technique, dans éducation scientifique, là j'ai un ensemble de programmes, bio, physique, chimie, okay, et qui vaut pour la troisième et la quatrième. D'accord ? Pensez à nos braves enseignants qui passent d'une classe de troisième générale, sciences générales, à éventuellement donner cours en quatrième dans une section éducation scientifique, hein, pour du technique par exemple. D'accord ? Sans parler du professionnel et du technique de qualification, qui est une autre forme de technique. Donc voici l'ensemble. Alors, les enseignants, c'est encore leur vie, c'est des professionnels. Mais maintenant, imaginez les élèves là-dedans. Et donc, par exemple, bah, tout va bien dans ce cas-ci. Il est arrivé dans la filière de qualification, notre élève, dès la troisième. Et il poursuit gentiment à travers tout ça. Et donc, il va avoir un programme de sciences, puis un autre programme de sciences. Et il vise ses compétences terminales ici, qui sont là. Et donc, il est en ligne droite. Okay ? Maintenant, imaginez la situation que je vous présente ici. C'est un élève qui a commencé dans le général. Tous les parents aiment bien de commencer dans le général, et puis on verra après. Et puis ça se gâte à la fin de la troisième. Il passe dans le technique de transition, donc il destine encore à faire des études, et puis ça se gâte à la fin de la quatrième, et là, les parents font passer le gamin en cinquième et en sixième, ou la gamine si vous préférez, dans la qualification technique. Eh bien, ce poisson, qui n'est pas du tout un poisson rare, hein, il va passer d'un, deux, à un troisième référentiel terminal, et il va changer de programme. D'accord ? Ce qui fait que quand on regarde ça, tout ça était fait chez nous, donc on a informatisé toutes les compétences année par année à travers les programmes, eh bien ces élèves-là, évidemment, vont voir jusqu'à 3 fois la même chose. Parce qu'on ne voit pas les mêmes choses au même niveau dans les différentes filières. Donc ils vont voir 3 fois la même chose, et parfois ils ne verront jamais quelque chose. Ou bien ils n'auront pas les prérequis de quelque chose, et ils vont arriver dans l'année suivante. Et ça, c'est les plus fréquents. Ce sont les parcours que nous on appelle improprement, mais descendants. Et puis vous avez les saumons, mais ils sont très rares les saumons chez nous, c'est ceux qui feraient l'inverse. Ils partiraient du professionnel et remonteraient vers le général. Alors ceux-là, c'est pas étonnant qu'ils soient rares, parce que ça veut dire qu'à peu près chaque fois qu'ils font un bond, c'est comme si on retirait l'endroit et l'eau où ils vont arriver. Donc, boum, ils atterrissent, et puis hop, on retire, puisque pendant ce temps-là, pendant qu'ils étaient en professionnel, on voyait des compétences en accéléré et du contenu en accéléré que eux ne voyaient pas, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment, on leur retire la bassine. Vous voyez le saumon, boum, boum. Il y a quelques saumons, mais c'est une infime fraction de pourcent. Donc voilà le genre de choses auxquelles on est confronté. Et pour faire ça, évidemment, ça supposerait qu'on ait un système cumulatif. Hein, mais on est très loin d'avoir un système cumulatif avec un seul objectif. Or, malheureusement, on change de référentiel en fonction des filières, et chez nous, c'est la liberté d'enseignement, donc pour l'établissement, mais pour la filière aussi. Tout ce qui se passe, c'est que on vous ferme au conseil de classe des portes. Et on dit, ok, mais pas science forte. Ok, donc vous dites pas science forte, ça veut dire telle option, etc. Et donc voilà pourquoi vous passez d'une option à l'autre et vous retrouvez à faire cette voie descendante. Si j'essaie de vous donner, bon ça c'est le système informatique qu'on a mis au point, qui est une base de données relationnelle, qui permet de savoir pour un entrant à tel endroit ce qu'il est supposé apprendre sur le papier, ce qui nous permet après de le tester ou d'aller voir sur le terrain, mais il fallait d'abord mettre ça au point. Si vous voulez savoir ce que ça donne par rapport aux objectifs qui sont assignés, eh bien, en termes de savoir, bon, dans l'enseignement sciences générales, donc l'option la plus valorisée chez nous, ça va. On voit qu'en vert, c'est la plus grosse partie et que les savoirs qui sont prescrits sont vus dans les programmes. Dans les programmes. Okay. Par contre, si vous croyez vraiment au programme, ce que peu d'enseignants semblent avoir comme foi, eh bien, vous allez voir que la part en vert va évidemment, malheureusement, je devrais dire, se restreindre de plus en plus, et que donc ce qu'on déclare dans le programme qui est approuvé par le ministre ou la ministre, eh bien, est une fraction de ce qu'on annonce qu'on fera dans le référentiel qui s'impose à tous les réseaux. Vous voyez, ça vaut parfois la peine d'aller voir ce qu'on dit qu'on va faire, puisqu'après il faut le faire, mais ce qu'on dit aux enseignants de faire, c'est normalement le programme. D'accord ? Vous voyez un peu le genre de choses qu'on a. Je passe sur ça. En termes de compétences, puisqu'on a aussi une approche par compétences, les mêmes filières, donc depuis le général jusqu'au professionnel, chaque petite barre, c'est une année d'études, donc 3e, 4e, 5e et 6e, parce que c'est le même programme, on ne peut plus changer, d'accord ? Et en gris, l'ensemble du parcours, ça c'est le nombre de compétences qui sont prescrites, au sens du décret qui dit ce qu'est une compétence. Okay. Et donc on voit évidemment, malheureusement, que numériquement et dans les documents, on ne parle pas de la même chose en termes de compétences. En termes de volume d'acquisition, on n'est évidemment pas non plus exactement dans le même ordre d'idées, puisque dans le professionnel, on va acquérir une cinquantaine de compétences à la fin des 4 années, si on a fait ça, alors qu'on est supposé en acquérir près de 250 dans d'autres domaines. Alors, évidemment, pour être tout à fait de bon compte, je vais sauter cela. Le problème, c'est qu'on ne parle pas non plus de la même chose selon l'endroit où on est. Alors d'abord, on est très peu précis. Donc on va par exemple dire, représenter dans le plan une molécule d'hydrocarbure saturée, un alcane. Mais on ne va pas préciser, alors pour ceux qui n'ont pas fait trop de chimie, on s'en fout un peu, mais ça pourrait être la version de gauche ou ça pourrait être la version de droite. Et on ne parle pas tout à fait de la même chose et les présupposés ne sont pas tout à fait les mêmes non plus. Donc ça, c'est déjà un souci. Les enseignants, ils vont dire, et alors c'est laquelle? Qu'est-ce qu'on fait? Les deux? Laquelle? Dans certaines écoles où on avance bien, on fait les deux. Et dans d'autres, on fait des choix en fonction de ce qu'on croit qu'il serait nécessaire après. Or, les programmes, en principe, ils disent ce qu'il faut faire concrètement. Alors, si maintenant je regarde la version des compétences terminales, savoir requis en sciences générales, versus le programme d'éducation scientifique, donc deux filières différentes, on va voir tout de suite que, malheureusement, quand on parle de compétences, c'est supposé être des compétences, je suppose que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on n'est pas tout à fait sûr que c'est des compétences dont on parle. Donc il faut dire aux enseignants, attention, vous enseignez par compétences, vous évaluez par compétences. Okay ? Et par exemple, une compétence, c'est représenté dans un plan une molécule d'hydrocarbure, celle de tout à l'heure. C'est écrire la formule développée. Ça semble plutôt être des savoir-faire. Enfin, on va dire ça comme ça. Et puis de l'autre côté, dans une autre section, c'est connaître les principes de fonctionnement du corps humain. Connaître les principes, ça c'est une compétence. Okay ? Au mieux, on pourrait se dire que c'est un savoir, sans doute. Hein. Il faut connaître, donc on l'a appris à un moment donné, et puis on devrait pouvoir le restituer, le décrire, etc. Donc vous voyez comment nos pauvres enseignants sont mis à des sauces qui sont difficiles. Donc je disais au début, on n'est pas toujours sympa avec les enseignants. Ça ne pourrait pas arriver. Non, j'ai pris la Belgique parce que j'ai pas trouvé de trace en France. Donc voyez la situation dans laquelle on est. Donc on peut à la fois être très critique vis-à-vis de nos enseignants, parce qu'en effet, il y a des choses qui sont un peu compliquées. Hein. Ce que je vous ai montré sur les maths, là, tout à l'heure, par exemple, hein, les évaluations ne sont pas standards tip-top, oui, mais on voit aussi qu'on ne les met pas dans des situations qui leur permettent d'être très cohérents. Et les élèves non plus, d'ailleurs, avec des parcours qui sont un peu chaotiques, sur papier. Une autre fois, je vous raconterai comment c'est dans la réalité. C'est pire encore. Voilà. Merci.